François Lebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Lebrun, vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah, professeur associé à Sciences Po. Alors on va parler avec vous d'un colloque international auquel vous avez participé, ayant pour thème De Gaulle, Israël et les Juifs, qui s'est tenu hier à Paris, à la Fondation Charles de Gaulle. Un colloque d'ailleurs qui se poursuivra en Israël les 19, 20 et 21 mars prochains.
Tout à fait, Pierre. C'est à l'initiative de Hervé Guémard, le président de la Fondation Charles de Gaulle, que cette idée de colloque a germé il y a un an et qui associe la Fondation Charles de Gaulle et l'Open University d'Israël, conduite par le professeur Denis Charbit, que vos auditrices et auditeurs connaissent bien. Et c'est un colloque passionnant. Donc, comme hier, il y a eu la première journée à Paris et à la Fondation Charles de Gaulle, dont le thème était « De Gaulle et le judaïsme français, rencontre et sens de l'histoire ». Et comme vous l'avez dit, dimanche, lundi et mardi, ça va se continuer en Israël, à l'Open University d'Israël. Et c'est un thème absolument passionnant. Alors je veux surtout vous parler de la journée d'hier. Nous avons d'abord été très bien accueillis à la Fondation de Charles de Gaulle, qui avait mis les petits plats dans les grands et qui avait sorti dans des bibliothèques certains documents absolument passionnants. Il y avait par exemple les mémoires de guerre de De Gaulle, traduites en hébreu dans une superbe édition en bleu, blanc, rouge, et avec une dédicace de David Ben-Gourion, en français, signée de la main de Ben-Gourion, à De Gaulle, en disant que c'était le grand libérateur de la France. Et c'était une dédicace très chaleureuse. Alors, cette journée a été très riche. D'ailleurs, pour nos éditrices et auditeurs que ça intéresse, ce sera bientôt diffusé sur Academ. Et puis, les comptes rendus du colloque seront publiés avec les textes de toutes les conférences. On a parlé, en fait, surtout hier à Paris, de l'environnement juif, des influences juives et des thématiques juives et de sa compréhension des juifs de Gaulle pendant toute sa vie. Alors, on a commencé à démarrer par les influences intellectuelles de De Gaulle. Peggy, le grand écrivain, Dreyfusard, ami des Juifs, ami de Bernard Lazare, a eu une influence intellectuelle majeure sur lui. Mais aussi, pendant l'entre-deux-guerres, Charles de Gaulle a rencontré le colonel Émile Mayer, qui a eu une influence psychologique, spirituelle et intellectuelle et militaire absolument déterminante sur De Gaulle. Et De Gaulle est devenu un écrivain et un stratège de la pensée militaire grâce au colonel Émile Mayer. Et aussi, De Gaulle a été très influencé par la pensée philosophique de Bergson. Mmh. Et donc ça, c'était très intéressant, j'ai découvert ça. Et c'était un bergsonien dans le bon sens du terme. Bergson mettait en avant l'action et De Gaulle y était très sensible. De Gaulle aussi était influencé par les Dreyfusards. Son père avait été Dreyfusard, bien d'un milieu plutôt monarchiste, et ce qui était assez rare. Et lui était Dreyfusard et considérait que Dreyfus était innocent. Et puis De Gaulle, dans l'entre-deux-guerres, rencontre Léon Blum. Et je dirais pas amitié, mais ce lien proche a été important pour lui. Et puis évidemment, il y a la France libre. Et comme De Gaulle l'a dit, quand on lui demandait mais qui étaient les premiers Français libres, il avait répondu « Des Juifs lucides, une poignée d'aristocrates et tous les pêcheurs de l'île de Sein ». Et vous noterez qu'il a répondu en premier « Des Juifs lucides ». Et parmi ces Juifs lucides, on a évoqué hier la mémoire de René Cassin, qui fut un des premiers à rejoindre De Gaulle, qui devint son ministre de la Justice. On a évoqué Pierre Mendès-France, René Maillère, tous deux deviendront présidents du Conseil sous la 4e République. On avait évoqué aussi Asher Safir, celui-là je ne le connaissais pas. C'était un juif palestinien et sioniste d'une famille palestinienne du début du 19e siècle et qui avait rejoint la France libre parmi les tout premiers et qui avait un rôle assez déterminant au Levant pour rallier à la France libre des juifs de Palestine et d'Orient.
Et il y avait aussi Marcel Blostein-Blanchet qui a rejoint aussi De Gaulle.
Tout à fait, mais on n'en a pas parlé hier. Par contre, on a parlé de quelqu'un de plus important, de Lazare Racheline, connu sous la Résistance comme Lucien Rachet. Son fils François Racheline l'a évoqué. Lazare Racheline a été le délégué de De Gaulle au moment de l'insurrection de Paris. Et donc, c'était absolument passionnant. Et nous avons évidemment conclu par une réflexion sur la fameuse conférence de presse de novembre 67 où De Gaulle prononce sa phrase malheureuse à propos des Juifs, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. C'est surtout évidemment le troisième adjectif qui pose problème. Et la réaction de Raymond Aron. Et ce colloque a été conclu par Hervé Guémard, le président de la Fondation Charles de Gaulle, et Chaim Korsia, grand rabbin de France, et qui a évoqué en fait les dialogues du grand rabbin Kaplan et de Gaulle. Donc c'était une journée très très riche, très intéressante et très nourrie, et j'espère que très rapidement, vos auditrices et vos auditeurs pourront le découvrir sur Académ.
Alors, et vous, François Helbron, vous avez pris la parole. Le thème, d'ailleurs, de votre intervention, c'était De Gaulle, la communauté juive et la mémoire de la Shoah.
Oui, en fait, c'était même plus compliqué. C'était De Gaulle, la Shoah et la mémoire de la Shoah. Et donc, quand on m'a donné ce sujet, j'étais un peu inquiet parce que je ne savais pas vraiment ce que De Gaulle avait dit pendant la guerre sur la Shoah et je ne savais pas vraiment non plus ce qu'il avait dit après la guerre sur la Shoah et donc comment il avait commémoré la mémoire de la Shoah. Et en fait, j'ai découvert en préparant cette communication que c'était l'inverse de ce que je pensais en fait. C'est en fait De Gaulle très tôt, dès le 22 août 40, prend une position très ferme contre la persécution des Juifs dans les territoires occupés par les Allemands, dès le 22 août 40. Et en fait, il a été mobilisé sur ce sujet le 9 août 1940 par Albert Cohen, le grand écrivain, l'auteur de Belle du Seigneur et de Solal et des Valeureux. Albert Cohen, qui était le représentant du Congrès juif mondial auprès de la France libre et qui l'avait alerté de la situation des Juifs en Europe de l'Est et des massacres qui avaient des populations juives. Et en fait, De Gaulle a continué à s'exprimer très publiquement sur ce sujet. Par exemple, le 4 octobre 40, après le statut des Juifs du 3 octobre 40, il écrit au président du Congrès juif mondial pour dire que ce statut des Juifs est contraire à l'honneur et à la dignité de la France et qu'évidemment, ces législations d'exception seront nulles et non avenues quand la France sera libérée. Et en novembre 41, il y a une célébration à New York des 150 ans de l'émancipation des Juifs. Et De Gaulle écrit un message très chaleureux au rabbin Weiss, qui est président du Congrès juif mondial, pour lui dire le soutien de la France libre et de lui personnellement contre les persécutions des Juifs dans tous les territoires occupés par les Allemands. Et en 42, il condamne très fermement, comme la plupart des commentateurs de la France libre sur la BBC, Radio Londres, il condamne très fermement les rafles de Juifs en zone nord, évidemment la rafle du Veldiv, mais aussi en zone sud, et dit que la France se trahit elle-même. Alors ça, c'est une période très étrange, 40-42, où il y a une vraie position de De Gaulle et de la France libre. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que 42 à 44, il s'exprime plus vraiment sur le sujet. Et là où ça a été, moi j'ai été très surpris, c'est qu'après la guerre, donc une période encore plus longue, et pourtant il a été très courageux dès le début, de 45 à 70, il s'exprime quasiment pas. Dans les mémoires de guerre, en 3 tomes, 900 pages, il y a trois petites phrases pour parler du génocide des Juifs, qu'on n'appelait pas encore la Shoah à l'époque, trois petites phrases où il n'évoque même pas le génocide, ce crime contre l'humanité, ce massacre, cette extermination. Il parle de la honteuse persécution des Juifs. Alors, on peut persécuter les Juifs sans forcément les tuer, ou surtout sans les tuer de manière totalement collective. Et donc, il est en retrait. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est que dans le comité de parrainage de création du mémorial du martyr juif inconnu, qui va devenir le mémorial de la Shoah, eh bien, Charles de Gaulle ne fait pas partie du comité de parrainage, du haut comité de patronage, comme on disait. Et pourtant, il y a Churchill, il y a Eleanor Roosevelt, la veuve de Roosevelt, il y a Vincent Auriol, président de la République, il y a à l'époque Antoine Pinet, président du Conseil, il y a la reine des Belges, il y a le grand-duc de Luxembourg. Et il y a plein d'autres souverains et des premiers ministres, et il n'y a pas De Gaulle. Et ça, c'est un mystère. De Gaulle, en plus, je suis allé aux archives du mémorial, a été invité plusieurs fois à se rendre comme personnalité, puis après comme président de la République à partir de 1958, au mémorial du martyr juif inconnu. Il a toujours répondu par la négative. Mais enfin, en 1967, il est le premier chef d'État occidental à se rendre à Auschwitz, et il demande à ne pas faire de déclaration. Et sur le livre d'ordre d'Auschwitz, il évoque la honte, le désespoir et la tristesse, mais il n'évoque pas non plus le génocide des Juifs. Donc c'était une communication un peu contrastée, où en fait De Gaulle, très tôt après la mesure du danger de la persécution des Juifs, a été solidaire des Juifs de 40 à 42, 42-44, un peu le silence, et surtout un immense silence après-guerre.
Allez, il nous reste 2 minutes. On ne peut pas ne pas parler de la situation intérieure en Israël et vous vouliez revenir sur la position du président du CRIF sur les déchirements de la société israélienne.
Tout à fait, tout à fait. La communauté juive française n'a pas à s'immiscer dans la politique israélienne. Et Israël est un État souverain, avec une vie démocratique vivante, animée, forte, et le président du CRIF n'a pas à s'immiscer là-dedans. Mais Yonatan Rafi, vu les déchirements de la société israélienne, a lundi publié un communiqué que j'ai trouvé très remarquable, et qui en tout cas exprime la position que je ressens, c'est que Israël est une démocratie, et c'est la force d'Israël, et que justement, en tant que juifs de diaspora, en tant que juifs français, nous avons aussi un regard à porter sur Israël, aux évolutions d'Israël. Et voilà ce qu'il écrit, et j'ai trouvé ça très bien. Pour la diaspora, être juif, c'est notamment la conscience de ce que nous devons à la démocratie libérale et l'état de droit. La condition juive à travers l'histoire ne peut s'épanouir sereinement que dans les démocraties, Israël, États-Unis, Europe occidentale, vers lesquelles on va peu à peu migrer l'immense majorité des juifs au XXe siècle. Et l'honneur d'Israël est d'être l'un des seuls États au monde à s'être directement constitué en démocratie. Par contre, la démocratie, on le sait, c'est bien sûr des élections, mais pas seulement, c'est aussi une presse libre, un tissu associatif vivant et des contre-pouvoirs effectifs. Aujourd'hui, la vitalité démocratique d'Israël fait sa force. Mais comme toutes les démocraties, c'est là notre inquiétude en tant que juif français, elle peut faillir. Elle s'affaiblit, alors je cite Yonatan Rafi, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, elle s'affaiblit lorsque l'état de droit est débordé par une minorité lors des inacceptables violences à Hawara, en vengeance de l'attentat commis quelques heures plus tôt. On ne venge pas par des violences contre une ville. Ce n'est pas ça, les valeurs du judaïsme. Et Yonatan Rafi continue, elle s'affaiblit aussi lorsque surgissent des discours politiques stigmatisants et haineux dans le débat public israélien, et ce jusque dans les propos de certains ministres en poste. Ils ne sont acceptables dans aucune démocratie. Et il conclut, ce n'est pas un jugement politique que de le dire, c'est une position morale que nous tenons en France, en Israël, comme partout ailleurs. Et ce n'est pas parce que nous sommes juifs de diaspora que nous nous taisons. On doit rappeler aussi à nos amis israéliens qu'il y a des valeurs morales du judaïsme qu'il faut respecter, et la démocratie libérale est la plus sûre garantie de la vitalité démocratique et de l'avenir d'Israël.
François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.